Bonsoir à tous. Je m'appelle Félix Tréguer, je suis chargé de mission à la Quadrature du Net. Je travaille avec le porte-parole de l'association, Jérémy Zimmermann, que vous connaissez peut-être. Et je m'occupe en particulier des dossiers institutionnels et juridiques sur lesquels la Quadrature se mobilise. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais vous parler des propositions que la Quadrature a formulées au mois de juin, qu'on a publiées au mois de juin, qui sont en fait l'ensemble des... Voilà, on est une association qui défend les libertés sur Internet. Par ce biais-là, on est amené à s'opposer à certains projets de loi en France ou des directives européennes ou à différentes positions dans le débat public. Et il nous a semblé important à un moment donné d'arrêter d'être toujours en opposition, en tout cas de développer un aspect propositionnel et de présenter un agenda positif. Qu'est-ce que recouvre la défense des libertés sur Internet, au-delà du rejet de lois comme la loi Hadopi sur le téléchargement et le partage d'œuvres sur Internet, le filtrage du net et ce genre de sujets, au-delà de toutes ces choses auxquelles on s'oppose, quelle est la vision qu'une association comme la nôtre défend? Et voilà. Et on est dans une année électorale en France, et même si nous on n'a pas vocation à s'inscrire dans ce débat de manière directe, on voulait soumettre au débat public certaines des propositions qu'on a été amené à formuler au cours des différents dossiers, au cours de nos travaux sur les différents dossiers sur lesquels on a pu se mobiliser. Donc ces propositions suivent trois axes et je vais vous les présenter de manière successive. Elles visent en fait à faire d'Internet un réseau partagé aux mains des utilisateurs et qui soit source, faire en sorte qu'Internet puisse continuer d'être ce moteur d'innovation, de développement socio-économique et de progrès démocratique, ce moteur-là qu'il a été depuis 15 ans. Sa démocratisation et l'arrivée de l'Internet grand public au milieu des années 90. Donc les propositions que je vais vous montrer n'ont pas vocation à être exhaustives, c'est pas toute la défense des libertés sur Internet, la promotion d'un Internet libre ne se réduit pas aux propositions que je vais vous présenter à l'instant. Il y a d'autres aspects, notamment sur la vie privée, ou des choses comme ça qu'on n'a pas forcément extrêmement développées. Nous, on se définit comme une association qui promeut la libre circulation de la connaissance sur Internet et la libre circulation du savoir et de l'information le long du réseau. Et donc, vous le verrez, les propositions reflètent cet angle particulier. Donc, peut-être vous observerez que certaines choses qui vous tiennent à cœur manquent dans les propositions que je vais vous présenter, mais on pourra en parler dès la fin de ma présentation et échanger sur votre opinion et vos remarques juste après ma présentation. Mais d'ailleurs, s'il y a des choses que vous voulez me dire au cours de la présentation, s'il y a des choses qui sont pas claires ou quoi, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Donc, en gros, les trois axes propositionnels. C'est d'abord la défense des droits de l'homme dans la société numérique. Je vais y venir dans un instant, je vais commencer par ça. Dans un deuxième temps, on va voir les propositions qui ont trait à la protection de l'architecture Internet, donc plutôt d'un point de vue technique, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce réseau garde ses caractéristiques qui sont à l'origine des progrès démocratiques et socio-économiques qu'on observe. Dans un troisième temps, le troisième axe, le libre partage de la connaissance et de la culture sur Internet. Donc, tout d'abord, les droits de l'homme dans la société numérique. Donc, dans cet axe, les propositions qu'on formule visent d'abord à garantir la liberté de communication, qui est une liberté publique en France au moins depuis la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 11 de la DDHC proclame la liberté d'expression comme fondamentale pour la démocratie. Et Internet est vraiment l'expression technique, en tout cas empirique, de cette liberté proclamée il y a plus de 200 ans. Et du coup, l'idée de ces propositions, c'est de garantir cette liberté publique et les différents principes de l'état de droit qui permettent de protéger les libertés publiques dans nos sociétés. Donc tout d'abord, le premier axe dans ce thème des droits de l'homme, c'est la garantie de la présomption de l'égalité pour toute publication en ligne. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez qu'on vit une époque où les gouvernements sont dans une logique de reprise en main d'Internet. C'est-à-dire que c'est un univers qui est construit et géré par les utilisateurs du réseau. Et les gouvernements, on observe beaucoup de projets répressifs qui se développent autour de cette question, notamment le filtrage Internet. Le filtrage Internet, c'est en gros mettre une barrière aux échanges d'informations pour quand on estime que certaines informations sont illégales ou nuisibles. Donc il y a en France notamment cette question du filtrage est extrêmement forte lors du débat sur la loi LOPCI, qui était une loi qui a été votée finalement l'hiver dernier et qui recouvre, c'est un arsenal sécuritaire qui accumule pas mal de mesures en matière de politique de sécurité, et notamment un article 4 dans cette loi qui visait au filtrage de sites à caractère pédopornographique, donc un sujet extrêmement sensible et un but affiché extrêmement louable, si ce n'est que le recours, enfin, en tout cas la proposition formulée à l'occasion de ce projet de loi de filtrer de manière administrative l'Internet nous semblait extrêmement dangereuse. On voit aussi se développer au nom du droit d'auteur, par exemple sur YouTube ou Facebook, quand vous voulez mettre en ligne des vidéos, les contenus sont passés au crible de logiciels pour repérer de potentielles atteintes aux droits d'auteur. Et souvent, ces contenus, lorsque le service en question estime que, ou en tout cas le système de YouTube à cet égard s'appelle le Content ID, donc la logique c'est de screener le contenu qui est en train d'être mis en ligne par un internaute pour voir si il ne met pas en cause les droits d'auteur d'un ayant droit. Et on estime que nous, c'est pas un filtre automatique, un logiciel ou un acteur privé qui configure cet outil-là de filtrage, que ce soit un acteur privé d'ailleurs ou l'administration. Ce ne sont pas ces acteurs de filtrer les communications et de dire, sans même l'intervention d'un juge, qui est le garant des libertés dans un état de droit, que ces contenus sont illégaux et n'ont pas le droit de citer sur Internet. Donc voilà, c'est cette logique que recouvre ce premier axe, qui est de garantir la présomption de l'égalité pour toute publication en ligne. Et notamment dans ce thème, vous avez sans doute entendu parler du régime de, on dit en anglais, notice and take down, des demandes de retrait qui peuvent être formulées par exemple, imaginons, vous allez sur YouTube, enfin Vivendi par exemple, ou sa maison de disques Universal va sur YouTube et se rend compte qu'un des contenus en ligne porte atteinte à son droit d'auteur. Ils vont faire une demande à YouTube de retirer ce contenu en ligne. La plupart du temps, l'hébergeur, sauf à engager sa responsabilité et donc être passible de poursuites judiciaires, est prié d'obtempérer. Et le problème, c'est que ce régime qui a été mis en place au début des années 2000 est, du fait de certaines évolutions jurisprudentielles, en train d'être passablement remis en cause. Et en tout cas, au détriment de la liberté d'expression des individus, parce que là, je parle du droit d'auteur, mais il y a plein de choses, donc des contenus politiquement sensibles. Par exemple, si quelqu'un s'exprime de manière un peu véhémente contre un ministre, ou ce contenu en question peut être passible de poursuites pour diffamation, il est arrivé que le gouvernement ou des tiers demandent à un hébergeur ou à un prestataire, un site internet, de retirer ses contenus. Et le fait est que, alors qu'à l'origine, au début des années 2000, on avait mis en place au niveau juridique un équilibre qui imposait à l'hébergeur de veiller au respect de la liberté d'expression de l'individu. Aujourd'hui, le fait est que les hébergeurs et les personnes qui gèrent des sites en ligne sont très encouragés par des évolutions récentes au niveau de la jurisprudence et de la loi à retirer ces contenus sans même s'interroger sur la légalité ou la légitimité du contenu en question. Et donc, à cet égard, il y a un aspect qui nous semble très important, c'est qu'avant de retirer un contenu, il est important que l'hébergeur ou le site en question demande à l'internaute qui a mis le contenu en ligne si il est prêt à endosser la responsabilité juridique de ce contenu. C'est-à-dire, imaginons, il y a une plainte, ou en tout cas une notification d'un tiers à l'égard du gérant d'un site internet, expliquant qu'un contenu est diffamatoire, par exemple. L'hébergeur en question, selon nous, devrait être obligé de contacter la personne qui a mis le contenu en ligne pour lui demander est-ce que vous estimez que ce contenu est diffamatoire et auquel cas vous acceptez qu'il soit retiré et disparaisse soit retiré d'Internet, ou est-ce que vous endossez la responsabilité juridique auquel cas le contenu est maintenu, et si le tiers qui a fait la notification initiale le souhaite, il lui revient de porter plainte, d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de l'internaute auteur du contenu diffamatoire. Donc voilà. Donc cet aspect-là, c'est vraiment à la fois pour éviter donc les mécanismes de filtrage automatique et en même temps s'assurer que c'est bien l'internaute peut être responsable et endosser la responsabilité juridique des contenus qu'il met en ligne. C'est pas un prestataire technique de décider pour lui de la légalité de la pertinence des contenus qu'il a mis lui-même en ligne. Deuxième aspect, donc, c'est la garantie des droits au procès équitable. C'est un aspect extrêmement, voilà, je vous parle du rôle de l'hébergeur dans le retrait de potentiel de contenu. On estime que toute sanction imposée par les pouvoirs publics, notamment ayant pour effet de restreindre la liberté de communication, doit être précédée d'un procès équitable. C'est-à-dire que le droit au procès équitable, c'est un droit garanti, encore une fois, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, plus récemment au niveau européen par la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'y a aucune raison pour que sur Internet, ce droit au procès équitable ne soit pas garanti. Et c'est ce qu'on observe pourtant. Il y a de plus en plus de procédures et de soit du fait des hébergeurs et des prestataires de services en ligne eux-mêmes, soit du fait de dispositions législatives qui court-circuitent le passage devant le juge et qui censurent des contenus sans décision judiciaire. Donc ça, c'est une violation inacceptable du droit au procès équitable contre laquelle il convient de s'opposer. Troisième aspect, réfléchir aux limites de la liberté d'expression dans une sphère publique renouvelée. Donc là, l'idée, c'est que si on veut maximiser la portée démocratique d'Internet, faire en sorte que ce soit un outil au bénéfice de chaque citoyen qui veut s'exprimer dans l'espace public, alors il faut s'interroger sur certaines lois ou dispositions législatives qui interdisent certains propos, certains discours dans l'espace public. C'est la loi qui régit ces interdits de parole. C'est la loi sur la liberté de la presse de 1881, qui interdit, par exemple, l'apologie des crimes contre l'humanité, les propos racistes, etc. Mais aussi des propos, les injures ou la diffamation. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment parler de l'affaire Copwatch, ce site qui se voulait un collectif de citoyens voulant dénoncer les abus policiers. Sur ce site a été condamné suite à une plainte du ministre de l'Intérieur Claude Guéant il y a 2-3 semaines. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement problématique sur ce site, c'est le fait qu'il y avait effectivement des photos et des données personnelles concernant des policiers qui étaient mises en ligne. Mais le site a également été condamné. Même en dehors de ces violations de la vie privée des agents de police en question, le site aurait été condamné sur le simple fait que il portait injure et tenait des propos diffamatoires à l'encontre des forces de police. Et quand on lit l'arrêt du juge en question, Copwatch est condamné pour avoir, par exemple, dit que la police aux frontières de Calais, et là je cite, je me souviens bien des mots employés, humilie les migrants, les torture psychologiquement, etc. Donc, voilà, ça, le juge a considéré que c'était diffamatoire. Et il y a aussi une phrase sur le site qui est absolument, qui est violente et choquante pour sans doute pas mal de personnes, mais en tout cas, à mon avis, elle ne justifiait pas une condamnation judiciaire. Ne devrait pas être condamnée pénalement. Une phrase qui disait que la police était le charnier d'évolution. Voilà, un discours violent, un peu à la fois choquant et en même temps terriblement banal, et qui a justifié donc cette mesure de censure et qui a abouti au filtrage du site Scopewatch. Donc c'est un exemple, mais il y a des Et bon, Copatch, c'est un cas un peu difficile et sur lequel chacun d'entre nous peut avoir des opinions différentes. Mais il y a des cas beaucoup moins difficiles et sensibles. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire en 2009, lorsqu'une internaute avait traité Nadine Morano, alors secrétaire d'État à la famille, de menteuse sur un forum de Dailymotion. La ministre avait alors porté plainte pour diffamation à l'encontre de cette personne. Bon, on peut penser que c'est un peu abusif et on peut se demander s'il n'est pas temps de, sur certains aspects, de réfléchir à l'adaptation du droit de la liberté d'expression pour l'adapter aux nouvelles pratiques du discours public. Le fait, tout simplement, que dans l'espace public, aujourd'hui, ce ne sont pas que des journalistes ou principalement des journalistes qui s'expriment ou des écrivains ou des auteurs qui sont publiés par des maisons d'édition ou des organes de presse, mais chaque citoyen peut s'exprimer publiquement. Et forcément, ça change complètement la teneur des propos qui sont tenus dans l'espace public. Donc il y aura forcément une dose d'emportement, d'invective, de discours violents. Et voilà. Et donc l'application des dispositions qui ont été adoptées il y a plus d'un siècle pour réguler l'expression journalistique, est-ce que il est légitime qu'elle s'applique aujourd'hui au discours tenu par chaque citoyen sur Internet? Voilà, c'est une question difficile, mais qui nous semble important de poser. Le deuxième axe de propositionnel, c'est la protection de l'Internet libre et ouvert. Donc, au-delà de la défense des droits de l'homme, toutes les potentialités émancipatrices d'Internet reposent sur certains principes techniques du réseau, notamment la neutralité du net, je vais revenir sur cette question dans un instant, qui en font un réseau décentralisé où le pouvoir réside dans les mains des utilisateurs. Chaque internaute est maître de ses communications, maître de s'adresser à qui il veut sur l'ensemble du réseau global. Et il importe donc de protéger cette capacité qu'Internet offre aux utilisateurs vis-à-vis des menaces qui pèsent sur Internet lui-même. Tout d'abord, la protection dans la législative de la neutralité du net, c'est quelque chose de très important. Il y a même un député en Belgique qui a proposé d'inscrire ce principe de neutralité du net dans la constitution belge. Donc la neutralité du net, c'est un principe technique vraiment consubstantiel d'Internet qui exclut toute discrimination des flux de communication sur le réseau. C'est-à-dire que l'opérateur qui transmet les données émises par un utilisateur ne doit pas s'intéresser au contenu, à l'origine ou à la destination de l'information transmise. Il doit la transporter de manière neutre, c'est-à-dire que toutes les communications sont transportées de manière non discriminatoire par le fournisseur d'accès à Internet ou l'opérateur télécom qui transporte ces données. Aujourd'hui, on observe que les opérateurs en question, pour développer des modèles économiques, accroître leurs marges, passer des deals avec des prestataires de services comme Google ou autres, pour éviter d'avoir à investir dans davantage d'infrastructures de capacité en bande passante, et donc ils voudraient bien brider certains protocoles, certains échanges pour éviter qu'il y ait une pression sur leur réseau et que ces réseaux éviter ainsi d'investir dans davantage de capacités. Bref, il y a plusieurs modèles, mais toujours liés en fait à une volonté d'accroître leur marge, de mettre à mal cette neutralité. Et avec, c'est vraiment la liberté des utilisateurs d'Internet qui serait mise à mal. Et donc nous, le débat a été lancé en fait en Europe au moment de la discussion des directives du paquet télécom au niveau de l'Union européenne. C'était donc en 2009, et on a vu un opérateur américain, AT&T, qui ne possède pas de réseau en Europe, mais qui propose différentes prestations à des entreprises ou à des opérateurs, proposer dans le cadre de ces discussions au niveau du Parlement européen des amendements légitimant les atteintes à la neutralité du net. Et donc le débat a vraiment surgi en Europe à ce moment-là, sachant qu'aux États-Unis il était plus ancien, puisqu'il y avait eu des différentes affaires de bridage d'échanges en BitTorrent dès 2006, je crois. Mais le débat est arrivé en Europe au moment en 2009, et en fait le paquet, on a réussi à faire en sorte que ces amendements proposés par AT&T ne soient pas intégrés dans la version finale de ces directives européennes. Mais le débat a été lancé au niveau européen, et donc depuis 2009, il y a un vrai débat à la fois au niveau des États membres, donc de la France, la Belgique et tous les États membres de l'Union européenne, et au niveau de la Commission européenne et du Parlement européen, sur comment est-ce qu'on doit protéger ce principe? Enfin, est-ce qu'on doit le protéger? Et si oui, comment? Et on observe en France un débat public qui s'est engagé de manière assez positive avec un travail intéressant de l'ARCEP, qui est le régulateur des télécoms, et également des parlementaires qui ont fait un bon travail sur cette question et qui sont partants pour inscrire dans la loi ce principe extrêmement important. Mais on observe aussi au niveau européen, la Commission européenne, très sensible au lobbying des opérateurs télécoms, et la commissaire en charge de cette question, qui est Madame Nelly Kroes, une néerlandaise, a fait un vrai volte-face. Au début de son mandat, elle était résolument en faveur de la neutralité, et ces derniers temps, elle a tenu des propos contraires à ce principe, et donc on suit cette question de manière extrêmement attentive. Et si vous avez des questions d'ailleurs sur les différents dossiers qui peuvent être mentionnés au cours de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions à cet égard tout à l'heure. Donc en gros, pour finir sur cette question de la neutralité, nous ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une inscription de ce principe dans la loi, donc la définition du principe, en disant qu'Internet est un réseau neutre et ce principe doit être respecté par les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs qui transportent les flux Internet. Et ça doit, donc la protection de ce principe et de cette définition doit passer par des sanctions à l'encontre des opérateurs qui violent ce principe. Et donc des pouvoirs de contrôle aussi des pratiques des opérateurs par le régulateur qu'est l'ARCEP, par exemple, en France. Donc voilà. Donc le deuxième point sur la protection de l'Internet libre, c'est encourager le développement de réseaux sans fil partagés. Donc c'est une question qu'on a abordée de manière plus récente. Et en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les communications mobiles et l'Internet mobile reste neutre et favoriser un mode d'organisation des réseaux sans fil qui soit aux mains des utilisateurs. Il y a un enjeu, c'est que le mobile aujourd'hui, l'internet mobile, c'est l'internet qui est le moins neutre en fait. Il y a un grand nombre d'atteintes à la neutralité du net qui sont constatées sur les réseaux mobiles. Vous ne pouvez pas sur vos téléphones portables en 3G par exemple utiliser du peer-to-peer, des groupes Usenet. Il y a tout un tas de limitations qui sont attachées à l'utilisation de l'internet sur vos téléphones. Or, et donc, le mode traditionnel de l'administration ou d'organisation au niveau de la régulation des réseaux sans fil, c'est on alloue une partie du spectre radioélectrique, donc les ondes qu'on utilise pour transmettre des données en sans fil, on alloue une partie du spectre radioélectrique à un opérateur, donc l'opérateur achète ou en tout cas candidate pour l'obtention d'une licence auprès des pouvoirs publics de l'État. Et donc il exploite cette licence en fournissant des services, etc. Aujourd'hui, on a des technologies radio qui peuvent nous permettre de mettre en place des réseaux qui ne soient pas soumis, enfin en tout cas un accès au spectre qui ne soit pas soumis à licence. Regardez par exemple quand vous utilisez le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est la première technologie, enfin en tout cas dans le domaine des communications interpersonnelles et de masse mobile, quand on émet en Wi-Fi, on n'a pas besoin d'obtenir une licence auprès du régulateur ou des pouvoirs publics. On met une borne et voilà, il y a un certain nombre de normes techniques qui sont définies pour l'utilisation des antennes Wi-Fi. Mais voilà, et ça permet de mettre en place des réseaux sans fil qui sont la plupart du temps gérés par l'utilisateur, puisqu'on peut configurer son réseau Wi-Fi. On est libre de relier deux bornes Wi-Fi pour créer un réseau d'utilisateurs. Et donc en fait l'enjeu du développement de réseaux sans fil partagés, c'est de faire en sorte que le Wi-Fi, donc qui concerne des fréquences qui sont des hautes fréquences et qui ont des propriétés physiques assez limitées en fin de compte, le Wi-Fi ça utilise des ondes dont personne ne voulait auparavant. On estimait que c'était des ondes poubelles et que les applications possibles de ces ondes étaient en fait pas intéressantes parce que c'est des ondes qui ne vont pas très loin. Et voilà. Et aujourd'hui, on a une époque où la télévision devient numérique, la radio devient numérique, et donc il y a des parties du spectre qui se libèrent. Et nous, l'idée qu'on défend, c'est de faire en sorte que ces parties du spectre qui se libèrent, sur des parties du spectre qui sont, en termes physiques, les propriétés physiques de ces ondes bien plus intéressantes, qu'on puisse avoir un accès ouvert et non soumis à licence de ces ondes. Sachant qu'aux États-Unis, ils sont déjà en train de le faire. Et ça permet, en gros, il y a des applications possibles, enfin vraiment, en fait on les connaît pas encore. Le Wi-Fi par exemple, ça a donné lieu à un grand nombre d'innovations en termes d'applications. Mais la chose très intéressante et qu'on explique aux parlementaires en charge de ces questions quand on veut mettre en avant l'importance de cette question, c'est le fait que on peut développer par exemple des réseaux Wi-Fi, enfin similaires au réseau Wi-Fi sur ces fréquences laissées vacantes par le par les radiodiffuseurs traditionnels. On peut développer des réseaux Wi-Fi de bien plus grande distance. Donc, à une échelle de, par exemple, entre deux bornes, on aurait besoin de, on pourrait mettre deux bornes et elles pourraient quand même transmettre de l'information sur une distance de 1,6 km ou de ce genre de distance. Donc, ça permet de développer des, de connecter des zones rurales à l'Internet sans fil ou à l'Internet tout court puisque beaucoup d'entre elles sont, sont dépourvues, à moindre coût. Et le problème, c'est que donc, dans ces débats-là, les opérateurs veulent garder la mainmise sur le contrôle du spectre et donc, ils sont très hostiles à l'apparition de, d'usages non soumis à licence de, du spectre qui donnerait lieu au développement de réseaux sans fil citoyens qui soient contrôlés par, par les utilisateurs. Et donc voilà, donc c'est un débat qui a du mal à prendre un peu au niveau, en Europe, alors que même que aux États-Unis il est relativement avancé. Et c'est tout à fait préjudiciable à la fois pour le, l'innovation, enfin, l'accès à Internet, mais également le développement de l'innovation à la fois sur le plan technique, de, au niveau des appareils, au niveau des services qu'on pourrait développer grâce à ces réseaux partagés. Il y a un autre aspect aussi sur, ces, sur cette question pour finir, c'est le fait qu'aujourd'hui, que lorsqu'on partage son... déjà à l'échelle de Paris, par exemple, vous avez déjà dû vous poser la question, pourquoi est-ce que les, on ne partage pas nos réseaux Wi-Fi pour créer un réseau Internet à l'échelle de la ville, par exemple. Ce serait très aisé. Aujourd'hui, Free Wi-Fi et ce genre de services le font déjà, avec tout un tas de restrictions, puisque ce ne sont pas des accès ouverts. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, citoyens, s'organiser pour partager nos accès Wi-Fi et faire bénéficier d'un, n'importe qui se balade dans Paris d'un accès Internet de bonne qualité et gracieux. Le fait est qu'il y a des, tout un tas de problèmes techniques sur le... la confidentialité des communications d'abord, et après de responsabilité juridique de la personne qui détient la borne Wi-Fi et qui partage son accès à Internet avec d'autres. Et donc, il faut, il y a encore beaucoup de travail à faire, à la fois sur le plan technique et à la fois sur le plan juridique, pour faire en sorte que les personnes qui partagent leur accès puissent le faire sans être inquiétées de quelque manière que ce soit. Le troisième aspect, là je vais passer assez vite, donc le développement de terminaux et de, donc de terminaux, à la fois les ordinateurs, les logiciels qu'on utilise dessus, et les téléphones portables, les logiciels qu'on utilise dessus, et des serveurs, donc les disques durs connectés à Internet qui permettent d'héberger les données qu'on échange sur Internet, qui soient contrôlés par les usagers. Donc si on veut garder aussi la, le caractère décentralisé d'Internet, il suffit pas de protéger la neutralité du net, et donc le, la neutralité du transporteur d'informations sur le réseau. Il faut aussi s'assurer que les usagers restent maîtres des outils logiciels ou des terminaux qu'ils utilisent. J'en parlais tout à l'heure avec Benoît. Aujourd'hui, quand on va sur, un grand nombre d'utilisateurs ne voient pas bien plus loin que Facebook ou Google lorsqu'ils veulent utiliser des services en ligne. Pourquoi ? Parce que ces sociétés-là proposent en gros de l'hébergement et tout un tas de services de manière centralisée. Le problème, c'est que se déférer à ces entreprises pour mener nos activités en ligne, c'est perdre une partie de nos libertés. Je pense que beaucoup d'entre vous ici sont intéressés par les logiciels libres, donc vous êtes déjà très sensibles à cette question. Mais à cet égard, donc à la fois, donc il y a l'importance du logiciel libre et également la possibilité aujourd'hui de que chaque usager d'Internet soit doté de son propre serveur, puisse héberger ses propres données, tous ses outils qu'il utilise sur Internet, et reste maître de ces données. Il y a un projet qui a été lancé par un des penseurs du logiciel libre, Eben Moglen, qui s'appelle la Freedom Box, et en fait ça vise à développer un petit serveur qui soit aussi, justement pour revenir à la question précédente, aussi une antenne relais qui permette de justement construire des réseaux sans fil maîtrisés par les utilisateurs. Donc un projet qui s'appelle la Freedom Box, et donc ils ont pour projet de développer ces petits appareils qui seraient facilement configurables par les internautes et qui pourraient héberger nos données plutôt que donc les laisser dans les mains de Google, Facebook et autres, et en même temps donc de développer des réseaux sans fil. Donc vraiment l'idée, c'est de garantir la nature décentralisée d'Internet et éviter toute centralisation de son architecture. Donc on passe maintenant au troisième axe, qui est le partage de la culture et des connaissances. Internet et les technologies numériques ont permis à chacun de partager librement l'information, la réappropriation, la modification des œuvres et de l'information, la réutilisation sous toutes ses formes, quelque chose d'extrêmement bénéfique, et devient une pratique commune pour les nouvelles générations, et c'est tant mieux. Le problème, c'est qu'on a un régime juridique de droit sur l'information, donc communément et abusivement appelé la propriété intellectuelle, donc les droits de propriété intellectuelle, qui obèrent notre capacité à échanger, modifier, partager l'information. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte, bon, ça c'est le débat sur le droit d'auteur notamment, qui est extrêmement vif sur les questions d'Internet, faire en sorte d'adapter ces politiques pour permettre à tout un chacun de se réapproprier l'information et donc d'être libre de l'information à laquelle il a accès et de la manière dont il l'utilise. Donc ça passe par d'abord la reconnaissance du droit au partage pour chaque individu, le droit au partage de l'information, le droit au partage de la culture. Aujourd'hui, tous les débats sur le droit d'auteur, on voit que cette idée de le partage est assimilé à du vol, la copie est assimilée à une activité qui nuirait à la création et à l'ensemble de l'économie culturelle. Or aujourd'hui, on dispose de plein d'études, donc pour parler seulement du droit d'auteur et des œuvres culturelles, de plein d'études qui montrent que le partage est au contraire bénéfique pour l'ensemble de la société et l'économie culturelle elle-même. Et donc une des propositions phares qu'on a formulées et portées notamment au moment des débats sur la loi Hadopi, c'est la reconnaissance du droit au partage pour chaque individu à titre non commercial. On en est loin, et en même temps les débats commencent à s'enclencher au niveau européen, au niveau national. Il y a plusieurs propositions en ce sens qui sont formulées, mais l'idée du partage de la culture, c'est quelque chose qu'il faut porter et faire en sorte que le cadre juridique s'adapte. Ça passe aussi par l'abandon de tout dispositif anti-copie, donc les verrous numériques que sont les DRM et autres mécanismes visant à empêcher la copie de fichiers d'œuvres culturelles ou tout type d'informations. On propose aussi qu'ils soient déclarés illégaux lorsqu'ils empêchent. Donc on recommande leur abandon, et on aimerait qu'ils soient déclarés illégaux lorsqu'ils empêchent des utilisations licites. Aujourd'hui, lorsqu'on veut copier un DVD sur son ordinateur, même lorsqu'on l'a acquis légalement, il y a des verrous qui empêchent cette copie. Or, il existe dans le droit français, le droit et le droit européen, le droit à la copie privée, donc le droit à la copie d'une œuvre dans le cadre privé, et aujourd'hui les DRM obèrent ce droit et l'utilisation à titre privé. Donc ça, c'est un exemple d'une utilisation légale qui est empêchée par la DRM, et donc dans ce cadre-là, les DRM devraient être totalement, non seulement abandonnés, mais en plus réprimés. Deuxième aspect, donc, dans cet axe partage de la culture et de la connaissance, l'exploration de nouveaux modèles de financement de création, de la création, de l'information et des médias en général. Parce qu'une fois qu'on a reconnu le partage et le droit pour chaque individu de partager l'information, la culture et la connaissance, il faut aussi s'interroger sur la manière dont, en tant que société, comment est-ce qu'on va faire pour financer la création de ce savoir. Et à ce titre, on a à la Quadrature du Net, notamment Philippe Aigrin, qui est cofondateur de la Quadrature du Net et qui travaille sur ces questions depuis longtemps, et qui a publié un ouvrage en 2009 intitulé Internet et création, proposait le mécanisme de la contribution créative, qui est une version 2.0 de la licence globale qui avait été débattue au Parlement français en 2006, et qui consisterait, donc la contribution créative serait une somme payée par chaque abonné à Internet, une somme mensuelle comprise entre 4 et 7 euros, si mes souvenirs sont bons, parce que voilà, c'est une proposition qui est soumise au débat public et qui vise juste à alimenter le débat. Donc 4 à 7 euros qui seraient prélevés en même temps que l'abonnement Internet, et qui irait abonder un fonds pour le financement de la création, donc à la fois la rémunération des artistes et également le financement des activités, enfin, de le financement de la production musicale et tout ce qui est lié à la création culturelle. À la fois donc la production, des salles de concert, des cours de musique, que sais-je encore. Donc financer en fait une politique culturelle grâce à ce fonds. Et juste pour donner un ordre de grandeur, donc un prélèvement de 4 à 7 euros par mois par abonné internet en 2009, donc ça a dû augmenter depuis, ça aurait permis de récolter environ entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros par an, ce qui est deux fois le budget de la SACEM, pour donner un ordre de grandeur. Donc c'est absolument pas négligeable, et ça aurait donc ce serait susceptible de dégager de nouvelles ressources pour financer la création. Sachant qu'il faut voir cette contribution créative comme un plus et non pas des recettes ou un fonds de remplacement d'un quelconque préjudice dont souffriraient les artistes et la filière culturelle. Lorsque Philippe Aigrin propose cela, dans son esprit, la contribution créative n'est pas une compensation d'un préjudice, mais bien une somme en plus et la mobilisation de ressources supplémentaires pour encourager la création culturelle et rémunérer les artistes dans leur ensemble. Et pour rentrer un peu plus dans les détails, dans la proposition de Philippe Aigrin, il y a également la mise en place d'un observatoire indépendant qui recueillerait les informations volontairement fournies par les internautes sur leur consommation culturelle, ce qui permettrait d'avoir un aperçu des œuvres des artistes qui sont écoutés, qui reçoivent de l'attention de la part des internautes, et donc ça permettrait de fournir des clés de répartition, en tout cas de savoir à qui est-ce que, pour la partie qui concernerait la rémunération des artistes, en tout cas le financement des artistes, ça permettrait de savoir qui sont les artistes qui seraient destinataires donc de ces fonds. Et sachant que là encore, ils proposent par exemple de pas faire une répartition qui soit proportionnelle, ou par exemple un artiste qui a été écouté 10 000 fois reçoit 10 euros, un artiste qui a été écouté 100 000 fois reçoit 100 euros. On pourrait faire des clés de répartition qui soient logarithmiques, me semble-t-il, et donc qui permettraient en tout cas de donner proportionnellement un peu plus d'argent aux artistes les moins écoutés pour favoriser une plus grande diversité culturelle. J'ai bientôt fini, mais on m'a dit qu'on pouvait dépasser, qu'on avait encore 7 minutes restantes apparemment, donc j'ai bientôt fini la présentation, on va pouvoir passer aux questions. Et au-delà donc de cette nouvelle contribution créative qui serait assise sur les échanges hors marché non commerciaux entre individus, il y a toute une réflexion qui s'engage sur la création de modèles économiques qui ne soient pas incompatibles avec le partage. Aujourd'hui, on nous explique que le partage de la culture est néfaste à l'économie culturelle et que la seule manière pour qu'il y ait une économie culturelle dynamique, c'est de faire en sorte qu'à chaque échange, chaque consultation d'une œuvre, chaque échange ou chaque consultation d'une œuvre soit associée à un paiement. Or, il y a de nombreux labels, associations, artistes individuels qui mettent en place je suis sûr que vous en connaissez plein. Si on faisait un petit brainstorming, je suis sûr qu'on pourrait déjà faire une liste assez importante des différents modèles économiques qui peuvent être mis en place sans pour autant empêcher les individus d'échanger des œuvres culturelles. Et donc le troisième axe des propositions en faveur du partage de la culture et des connaissances, c'est le renforcement du domaine public et la libération du patrimoine numérique. Et donc là, c'est toutes les questions liées aux données ouvertes, donc faire en sorte que à la fois le patrimoine numérique culturel, les bibliothèques en ligne comme Europeana au niveau européen ou celle de la BNF ou les archives de l'INA par exemple puissent être librement accessibles par les citoyens et faire en sorte aussi que les pouvoirs publics s'engagent en faveur d'un modèle de données publiques et ouvertes. Donc là il y a les travaux de l'association Regards Citoyens qui sont en pointe sur cette question et qui cherchent à faire avancer ce débat en France, sachant qu'on est très en retard par rapport à de nombreux autres pays. Donc c'est aussi un aspect extrêmement important. Donc voilà, sur ce je vous invite à pour aller plus loin aller sur notre site internet donc laquadrature.net ou lqdn.fr, les deux marches, /proposition, et donc vous irez sur, vous tomberez sur cette page où les différentes propositions de la quadrature sont réunies. Et il y a aussi pas mal d'informations sur différents documents qui peuvent vous aider à aller plus loin sur telle ou telle question. Voilà. Sur ce, je vous invite à m'interroger et à me questionner sur les aspects qui n'ont pas été clairs ou si vous avez des remarques ou questions à faire.
Bonjour. Au début, il y avait une question sur la neutralité. Enfin, il y avait la question de la neutralité et aussi la question du prix. Enfin, des opérateurs qui ne faisaient pas forcément assez d'investissement pour avoir le débit suffisant. Est-ce que la question de la neutralité et la question du paiement en fonction du débit sont deux choses dissociées ou non ? J'imagine que oui.
Oui. Aujourd'hui, donc en France et comme dans beaucoup de pays, l'internet est illimité. Donc, on paye une somme forfaitaire, on a accès à tout l'internet et quel que soit le nombre de données, quoique c'est de moins en moins vrai pour l'internet mobile. Lorsqu'on passe à un modèle de pay as you go, c'est-à-dire qu'on paie en fonction de la consommation, c'est pas incompatible avec la neutralité. Ce sont deux questions différentes. Donc, forcément, la manière dont l'internet va être facturé, l'accès à internet va être facturé aux consommateurs est importante pour favoriser le modèle illimité. C'est ça qui a permis à tout un chacun de développer ses activités sur internet et donc, de transformer internet en un outil extrêmement puissant et radicalement bénéfique pour l'ensemble de la société. Mais il y a effectivement des velléités de revenir sur ce modèle illimité. Et c'est lié à la neutralité du net dans le sens où, au-delà donc de ces restrictions ou de modèles de facturation qui, en fonction de la consommation, quand on parle de la fin d'Internet illimité dans la tête des opérateurs, c'est aussi, en fait, ils mélangent un peu les deux questions parce que c'est aussi, par exemple, Internet illimité, mais on va brider le peer-to-peer. Et donc, le vocable peut recouvrir les deux sujets, mais lorsqu'on rentre dans les détails, ces deux questions sont différentes, puisque le paiement en fonction de la consommation n'est pas incompatible avec un accès neutre. Donc, et nous, on s'est surtout mobilisé sur la question de l'accès à Internet, sachant que dans un environnement où la concurrence est assurée entre les différents opérateurs, ce qui est loin d'être le cas, mais dans un monde de concurrence pure et parfaite, et en fait, dans un marché comme celui de la France, on a quand même l'opérateur free qui est jusqu'à ce jour assez offensif, agressif sur ses offres par rapport à ceux des autres opérateurs. On peut estimer que il y a pas de justification pour que les opérateurs reviennent réellement à une consommation en fonction à une facturation en fonction de la consommation. Donc cette question est moins sensible que celle de la neutralité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon bah je vous remercie pour votre attention et donc je vous invite à aller voir notre site internet et poursuivre le débat. Et il y a mon mail en bas aussi si vous voulez me contacter pour m'interroger ou me critiquer ou que sais-je encore. Voilà. Je vous remercie, bonne soirée à tous.